Bonjour, c'est Estelle Denis. Vous écoutez Ça se discute, un podcast RMC Life. Bonne écoute. Et quel plaisir de vous retrouver sur RMC Live pour un tout nouveau numéro de Ça se discute. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la surveillance. Enfants, conjoints, maisons, de plus en plus de Français utilisent des caméras, des logiciels de géolocalisation, même des détectives pour sécuriser leur lieu de vie, s'assurer que leurs enfants ne sont pas en danger ou même espionner leurs conjoints. Mais alors, avons-nous encore une vie privée? Est-on tous désormais sous surveillance? Et est-ce que toutes ces caméras nous permettent vraiment d'être en sécurité? Enfants, conjoints, maisons, faut-il tout surveiller? Et je vous demande tout de suite d'accueillir chaleureusement nos invités. Laurie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la maman de 3 enfants, Laurie.
Oui, alors je suis belle-maman avant tout d'une grande fille de 17 ans et j'ai 3 enfants de 14, 10 et 8 ans.
Est-ce qu'ils ont tous un téléphone?
Oui.
Et est-ce que vous les surveillez tous grâce à leur téléphone?
Bien sûr que oui.
Nous sommes également avec Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, est-ce que vous nous surveillez ce soir?
Non, j'ai fait une pause.
Ah, vous faites quel métier, Nicolas?
Je suis détective privé.
C'est quoi le type d'affaires que vous traitez le plus, Nicolas?
La grande majorité, c'est évidemment tout ce qui va toucher les divorces. Et puis beaucoup de dossiers pour les entreprises aussi.
En tout cas, nous, ce soir, on vous a suivi sur une affaire d'infidélité.
Ouais,
et ça a été très sport. Majda, bonsoir.
Bonsoir.
Majda, en 2017, votre vie a été bouleversée par un cambriolage. Traumatisée, vous et votre compagne avez fait le choix radical de quitter Paris pour la campagne. Vous étiez à l'époque persuadée d'y trouver la tranquillité. Mais il y a 3 mois à peine, le cauchemar a recommencé, Majda. Une nouvelle effraction. Et cette fois, vous avez eu le sentiment que c'était la fois de trop. Qu'est-ce que vous avez ressenti après ce second cambriolage?
Comme un viol, en fait, puisque c'était la deuxième fois. Et c'était la fois de trop. Et c'est la raison pour laquelle j'ai installé des caméras.
Et on va voir ça dans un instant en images. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Je vous appelle Guillaume Bellinelli ou Monsieur le maire?
Comme vous voulez.
Bon, on va faire Guillaume. Alors d'accord. Ce soir, on va oublier le protocole. Guillaume, vous êtes maire de quelle commune?
Commune de Roinville-sous-Dordan, au sud de l'Essonne.
C'est calme là-bas. Et pourtant, vous voulez installer de la vidéosurveillance dans votre village.
Alors, un, c'est de la vidéoprotection.
Ouais.
Et deux, oui, parce qu'on a une recrudescence de faits d'insécurité, cambriolage comme Majda, et dépôt sauvage à haute dose.
Myriam est une habitante de cette
Absolument.
Commune.
Oui.
Myriam, la campagne, la Seine, le sud de l'Essonne, normalement on est tranquille?
Normalement on est tranquille, mais non, on est tranquille nulle part en fait. Là j'ai eu 2 cambriolages, et la meilleure c'est que j'ai eu des squatteurs.
Et on verra dans ce reportage, dans un instant, tout ce que vous mettez en place, justement pour être en sécurité.
Tout à fait.
Greg Yega, vous le connaissez?
Bonsoir.
Évidemment, vous l'avez vu dans Les Marseillais. Bonjour Greg.
Bonjour, enchanté.
Et aujourd'hui, avec vous, on n'est pas venu parler télé-réalité, on est venu parler cambriolage, homejacking.
Malheureusement, hein, j'ai vécu et j'ai reçu beaucoup de cambriolage et de homejacking. Malheureusement, je crois que j'en ai reçu 5. Voilà, tout simplement. Donc, ça devient compliqué, beaucoup.
Et aujourd'hui, vous êtes en hyper-vigilance. Et là encore, vous nous expliquerez à quoi ressemble votre quotidien après ces homejacking. Et notre grand témoin ce soir, vous pouvez l'applaudir très fort, c'est Sandra Sisley, directrice d'une agence de communication et d'événementiel qui s'appelle Sandra & Co, chroniqueuse de télévision sur Mesdames Médias. Bonsoir Sandra.
Bonsoir Eiffel.
Et puis vous le savez, en fin d'émission, vous retrouverez notre rubrique « Que sont-ils devenus ?». Ce soir, nous aurons le plaisir de retrouver Bernadette. Elle avait été accueillie il y a 24 ans par Jean-Luc Delarue, ici même sur ce plateau. Elle avait évoqué son enfance difficile et son combat pour offrir une meilleure vie à ses enfants. Allez, je vous propose maintenant de découvrir tout de suite notre reportage de ce soir. Enfants, conjoints, maisons, faut-il tous surveiller? Un reportage de Gabriel Niang et Émilie Bonnefou. Et c'est écrit par Leslie Andalon.
Montpellier dans l'Hérault.
Léna?
J'arrive.
On va faire une vidéo?
À 33 ans, Laurie est mère de 3 enfants et influenceuse à ses heures perdues. Son terrain de jeu, une appli bien connue des réseaux sociaux.
Ok.
Sa complice, sa fille Léna, 10 ans.
C'est parti. Tu le valides ?
Ouais. Mais derrière les vidéos complices, une mère attentive, parfois même très vigilante.
Aujourd'hui, on a 39 100 abonnés.
Léna attire une communauté de très jeunes. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'ils sont jeunes, laissés à eux-mêmes sur les réseaux. Ça reste aussi dangereux. Donc, il faut que ça soit vraiment bien sécurisé. Je suis toujours là et je contrôle tout. Et ça se passe que sur mon téléphone exclusivement.
La nuit, Laurie enfile sa blouse d'auxiliaire de vie. Le jour, elle reprend son rôle de maman sans jamais lever le pied. Rien n'échappe à son regard. Maman de 3 enfants, Maxence, 14 ans, Léna, 10 ans et Luca, 8 ans. Elle s'occupe aussi d'Eva, 17 ans, la fille de son compagnon Johan. Une grande famille recomposée qu'elle organise et protège au quotidien. Entre les devoirs, les repas, les sorties, chaque détail compte. Laurie veille, encadre, anticipe. Chez elle, aimer, c'est prendre soin, mais c'est aussi garder un œil sur tout, tout le temps. Car pour Laurie, protéger ses enfants, c'est d'abord les surveiller. Et lorsque Laurie emmène ses 2 jeunes enfants au parc, elle jongle entre goûter et surveillance.
Vous allez jouer là et vous restez pas loin de ma vue, ok ? Ok ? Allez. Hein ? Bisous !
Même à distance, Laurie garde un œil sur Maxence, son ado de 14 ans. Grâce à son application de contrôle parental, elle sait tout en temps réel.
J'ai Maxence qui m'a dit être allé à la médiathèque, donc je regarde s'il est bien à la médiathèque. Et il est au bon endroit. Il a que 14 ans, et puis à 14 ans, ben, avec tous les dangers de nos jours, ben, je préfère avoir un œil dessus. On n'est pas à l'abri d'une vraie mauvaise rencontre. C'est des choses qui me font extrêmement paniquer.
Pour calmer ses angoisses de maman, Laurie s'appuie désormais sur son application de surveillance. Impossible aujourd'hui pour la jeune femme de s'en passer.
Cette application, elle est totalement indispensable pour moi. Au niveau de la fréquence, pour la localisation, c'est vraiment tous les jours. C'est un geste qui est totalement naturel. Il n'y a pas que Maxence que je surveille, mais au niveau de la localisation, oui. Après, les 2 petits, du moment où ils rentreront au collège, bien sûr que oui, je regarderai leur géolocalisation. Allô ?
Allô ?
Je suis à la plaine des sports, si tu veux nous rejoindre, vas-y. C'est bon ? Allez, bisous, fils, à de suite.
Tout semble sous contrôle, jusqu'à ce que Laurie remarque que la localisation de Maxence reste figée depuis plusieurs minutes.
Je peux déclencher la caméra à distance ? On va essayer de voir.
Impossible pour Laurie d'accéder à la caméra de Maxence. Un simple bug qui fait grimper l'angoisse.
Ça m'embête parce que je veux être sûre qu'il soit arrivé. D'ailleurs, il m'appelle. Oui, Maxence ? Ah oui, je te vois. Il y a Luca qui arrive en courant.
Rassurée de le voir ?
Rassurée. Des bugs peuvent arriver, mais je pense que dans l'ensemble, j'ai été très satisfaite depuis le départ et que dans tous les cas, je continuerai cette application. Ça a été ta journée ?
Maxence est enfin arrivé, tout est à nouveau sous contrôle pour Laurie. Mais le soir venu, les écrans reprennent du service, toujours sous haute surveillance.
Vous le savez, pendant qu'on fait à manger, on fait quoi ?
On fait un temps de repos.
On fait un temps de repos, on est d'accord ? Donc là, on prend les téléphones et on se met au calme. On est d'accord qu'on ne regarde pas n'importe quoi. Maman, elle va contrôler que vous ne regardez pas n'importe quoi.
Ouais, tu contrôles ?
Ah ben oui, je vais contrôler. Si vous faites des bêtises et que vous respectez pas les règles, qu'est-ce que maman, elle fait ?
Je bloque le téléphone.
Ouais, je vous bloque le téléphone. Ok, alors là, vous pouvez aller faire un moment au calme avec le téléphone, s'il vous plaît.
Merci. Allez.
À l'inverse de Laurie, Johan, son mari se montre bien plus réservé quand il s'agit de contrôle parental et de surveillance au quotidien.
Papa cuisine et maman gère le reste à côté. Tout ça, moi, les applications, c'est vrai que j'ai un peu de mal parce que sinon, je vais faire la police, je vais être obligé de les fliquer. Ils sont où, ils font quoi, ils regardent quoi. Je suis pas très fan. Je préfère que ce soit maman qui gère.
Jamais très loin de son téléphone, Laurie garde le réflexe, un simple coup d'œil sur l'application, et elle sait instantanément ce que ses enfants sont en train de regarder. Chez elle, la vigilance ne s'arrête jamais.
J'ai Luca qui est en train d'écouter du Jul, là actuellement. En direct, on est en train de voir l'écran de Léna. Donc elle joue à des jeux. Je fais attention, bien évidemment, que ça soit des jeux pour enfants. Et sinon, je bloque l'application directement puisque je reçois une notification à chaque fois qu'elle télécharge quelque chose, qu'elle fait quelque chose. Pour le grand, lui, quand il joue ou quand il bouge, je reçois à chaque fois une notification. Il est sur TikTok actuellement. Après, je peux déclencher le micro. Également enregistré, oui. Si là, ils ne vont pas m'écouter, eh ben, je vais avoir facilement tendance à bloquer les téléphones. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'histoire et ils comprennent que c'est une sanction. Vous voulez qu'on le tente ? Qu'est-ce que c'est ?
Tu m'as bloqué mon téléphone.
Je t'ai bloqué ton téléphone ?
Ouais.
Et qu'est-ce que ça fait si maman elle bloque ?
Ben, ça m'énerve.
Ça te met en colère ?
Ouais.
Laurie a accès à tous les téléphones de ses enfants, à leur moindre contenu, au moindre déplacement. Rien ne lui échappe. Elle surveille tout, tout le temps. Mais jusqu'où peut-elle vraiment aller ? Ses enfants ont-ils conscience de l'étendue de tout ce qu'elle peut voir grâce à son application de contrôle parental ? Nous allons découvrir les raisons profondes de l'angoisse si tenace de Laurie. Paris au cœur de la capitale. Nicolas a 56 ans, ancien directeur de communication, il a choisi de se réinventer il y a 6 ans. Depuis, le renseignement est devenu sa passion, puis son métier, celui de détective privé.
Le métier de détective privé, c'est un métier qui fait beaucoup rêver, beaucoup fantasmer. Et c'est vrai que c'est un métier plein de surprises. L'adrénaline, l'imprévu, l'inconnu. J'adore être surpris. Je pars le matin et je ne sais pas ce que je vais faire. On peut aller dans un autre pays la même journée alors que ce n'était pas prévu. Et on peut aller dans des endroits superbes comme dans des endroits super glauques. Il faut un peu être un caméléon. J'aime cette mise en danger.
Aujourd'hui, il rejoint une collègue pour finaliser une enquête en cours.
Salut Nicolas, ça va ?
Comment vas-tu ?
Vous ne verrez pas son visage. Jeune détective, elle préserve son anonymat lors des filatures.
En fait, je suis sur un dossier, j'ai la cliente dans le cadre d'une procédure de divorce.
Une femme suspectant son mari d'avoir une maîtresse l'a mandatée pour rassembler des preuves. Faire appel à un détective privé dans une procédure de divorce, c'est possible. Néanmoins, pour recueillir les preuves, il faut respecter la loi et la vie privée. Un rapport peut peser dans la balance s'il confirme une infidélité ou un train de vie dissimulé, mais il reste un élément parmi d'autres soumis à l'appréciation du juge.
On a quand même pas mal de documents. On a effectivement des photos récentes du mari, son véhicule avec son immatriculation.
Quelles vont être les difficultés du dossier ?
La difficulté première, ça va être de les voir physiquement rentrer et sortir de l'adresse pour confirmer qu'il est allé là-bas. Si jamais les preuves sont difficiles à obtenir, il faudra prendre des risques.
Le lendemain matin, alors que le jour se lève, Nicolas, notre détective, est déjà en route pour boucler ce dossier de divorce sous tension.
Bah, ce matin, je me suis levé à 4h30 du matin.
Objectif de la filature, prendre le mari en flagrant délit avec sa maîtresse.
Là, nous allons constater le départ en vacances du mari de notre cliente qui part en week-end amoureux avec sa maîtresse.
Si les enquêtes de divorce sont courantes, pour lui, chaque histoire est unique et celle-ci le touche particulièrement.
Pour elle, c'est tout un monde qui s'écroule et elle a du mal à ouvrir les yeux, en fait. Et je me dis, si on n'aide pas cette femme, elle va se détruire à l'intérieur. Donc oui, ce dossier me tient à cœur.
Première étape, se positionner discrètement près du domicile du mari pour surveiller sa sortie.
Là, on est à 300 mètres. Là, on a un peu de pression. J'ai les deux roues quand même sur le trottoir, histoire que j'ai pas un stationnement qui attire le regard. faut se garer à peu près bien. J'ai vu que la voiture hein, de la personne était bien là. Mais là, maintenant, l'objectif, c'est d'attendre.
La planque, c'est 90% du temps d'un détective. Aujourd'hui, Nicolas a de la chance. L'attente ne va pas durer longtemps.
Je crois que c'est lui. J'ai un doute. Je crois pas que c'est... Tu sais quoi ? On va aller vérifier. Ouais, je crois que c'est lui qui vient de partir à l'instant, putain.
Le détective vient de prendre en chasse le mari. Sur cette filature, Nicolas n'est pas seul.
Il vient de partir, point, nous en avons pour 40 minutes à peu près.
Sa collègue est postée près du domicile de la maîtresse pour couvrir le second point.
Ouais, c'est lui.
La tension monte, ils ne doivent surtout pas rater le départ du couple adultérin en vacances.
Vous avez vu le démarrage en stress un peu ? Voilà, c'est ça, voilà. À un moment donné, il y avait une option à droite, à gauche, et voilà. Ben, c'est l'instinct du détective. Il faut développer les qualités instinctives dans notre métier.
Et alors qu'il est en approche près du domicile de la maîtresse...
Oh putain, c'est lui, merde. Ouais, on va se mettre là, on va attendre. On va le voir passer.
Nicolas doit se cacher pour ne pas se faire repérer par le mari.
Ah, attention, il arrive. Il arrive chez toi, là, dans deux minutes. OK ?
Ouais, ça va. Je la vois sortir. Elle est habillée en combinaison bleue.
En combinaison bleue ? Bon, ça va, ça devrait être opérable.
Ah, le gars, il arrive, il va descendre à pied, je pense.
Voilà, mais il est rentré, il rentre chez elle ou pas ?
Pour l'instant, il est au bout de la rue.
OK, donc là, on va passer discrètement.
Suite aux informations de sa collègue, pour ne pas louper sa cible, le détective décide de passer devant le domicile de la maîtresse, quitte à prendre un gros risque.
Attention, ça je crois que c'est elle, combinaison bleue, ouais, putain.
Le mari et sa maîtresse sont bien repartis ensemble, c'est le début d'une course-poursuite.
Ouais, je t'entends.
Ils ont pris à gauche. Hein.
À gauche ? Ok.
Ouais.
Allez papy, vas-y, dégage avec ton chien. Allez !
D'après ces informations, le couple doit prendre le train de 9h50 en direction de la capitale. Mais en chemin, leur comportement suscite des doutes.
Mec, qu'est-ce qui branle ? Attends. Ça va, c'est chelou. Je viens, tu passes. Ah non, non, c'est... Non, c'est chelou. Parce que là, on était au bout de la rue, à la gare. Je sais pas pourquoi il fait un détour.
Non, mais c'est qu'à mon avis, il va se garer.
Rien ne garantit que le couple se rende ensemble à la gare comme prévu.
Oh putain, merde. Ah, il est sorti de la bagnole.
Entre tension et adrénaline, Nicolas réussira-t-il à mener sa mission à bien ?
Oh putain, merde.
La vérité pour sa cliente est-elle à portée de main ou sur le point de lui échapper ? Roinville, dans le sud de l'Essonne, il est 22h.
Allez, on y va. C'est parti.
Guillaume, 34 ans, maire de Roinville, ne dort jamais vraiment tranquille. Avec son premier adjoint Jean-Yves et sa mère Anne, il arpente les rues du village tous les soirs, une ronde de fortune, comme une veille permanente contre la peur qui rôde au sein de la commune.
Quand on m'avait signalé un peu de trafic de stupéfiants là, au niveau du parking d'un des magasins, là, en fait, j'avais commencé à y aller en pleine soirée, voire en pleine nuit pour voir ce qui se passait. Puis après, j'ai gardé plus ou moins l'habitude, en fait, de régulièrement aller faire un tour, voir ce qui se passe. Sur le mois d'avril et de mai, on était à une moyenne de 2 signalements en matière d'insécurité par semaine. Donc, tentative de cambriolage avéré. Et donc, à partir du moment où on nous en signale un certain nombre, on peut considérer que c'est raisonnablement trop.
Trop, tout simplement. Excédé, les habitants ne se sentent plus en sécurité, ni dans la rue, ni même chez eux. Depuis son arrivée aux affaires de la ville en 2020, le maire s'est juré d'en faire son combat prioritaire, rendre à Roinville sa tranquillité perdue.
L'enjeu, c'est que les Roinvillois en fait, se sentent protégés avec différentes mesures là, qu'on est en train de mettre en place, mais qu'ils sentent que le sujet est compris, intégré et pris en charge pour être mieux protégés en fait.
En effet, à Roinville, près de Dourdan, en Essonne, l'inquiétude grandit. Dans ce village, les cambriolages et homejacking se succèdent depuis plusieurs années. En 2024, la commune a recensé 32 crimes et délits pour une population de 1314 habitants, Un fléau qui pousse aujourd'hui le maire à agir. De leur côté, certains habitants refusent de subir cette violence. C'est le cas de Myriam, 58 ans, ancienne journaliste télé, qui a choisi de prendre les choses en main.
Alors j'ai deux caméras.
D'accord.
Toute la maison de Myriam est équipée de caméras de surveillance. Sa voisine, Yamina, victime il y a 5 ans d'un cambriolage, est particulièrement séduite par tout cet équipement.
J'en ai une ici à l'extérieur que j'ai installée sur le volet.
Effectivement, ouais.
Et tu vois, j'ai des barreaux.
Combien de fois par jour tu regardes tes caméras?
Oh là là, j'arrête pas. Regarde, j'ai celle de
l'intérieur.
Tu vois, celle-là juste au-dessus de l'armoire.
Ouais.
Ma petite caméra, là.
Elle est bien. Hein.
Deux caméras, ce n'est pas assez pour Myriam. Obsédée par la surveillance, elle s'apprête à en ajouter une nouvelle, cette fois à un emplacement qui frôle la légalité. Car lors d'un cambriolage, les images de vidéosurveillance peuvent être utilisées devant la justice.
Tu vois, c'est ce modèle-là que je vais prendre.
D'accord.
Alors évidemment, je vais être face à la rue. Donc je ne sais pas si c'est légal ou pas. Moi, je veux être complètement sécurisée parce qu'on n'en a pas sur la rue, là. On n'a pas de vidéo dans le village.
Voilà. Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
Alors, tant qu'on n'en a pas, moi, je mets une vidéo devant.
Même si vous doutez de la légalité de ce que vous allez installer, vous êtes prête à le faire?
Ah, je suis tout à fait prête à faire, même si ce n'est pas légal. Ah oui, une fois qu'on a eu des squatteurs dans la maison et deux cambriolages, je peux vous dire que... Non, ça, ouais. je m'en fiche. Moi, je me protège comme je peux.
Ouais. Non, mais moi, je peux te comprendre.
Derrière chaque serrure et chaque caméra installée par Myriam, il y a un souvenir douloureux. Sa maison, envahie par des squatteurs il y a quelques années, un épisode dont les séquelles restent encore bien présentes.
Ça, c'était ma chambre dans l'état dans lequel je l'ai retrouvée.
Oh
alors, là... j'ai retrouvé un magnétoscope complètement ouvert. Je ne sais pas quel était leur but,
l'intérêt,
tu vois.
Ouais.
Et là, c'est carrément leur coke qu'ils ont jeté sur la moquette. Avec
seringues
et tout. Parce que quand les gendarmes sont arrivés, ils étaient dans la chambre. Il y avait 4 junkies et 5 chiens. Et donc, ils ont dû jeter ça sur le côté. Et puis, voilà. Je voulais m'en débarrasser de cette maison.
Ouais.
C'était l'odeur qu'il y avait. Ouais. Tout était saccagé, tout était cassé. Ils avaient tous les accessoires, ils les avaient foutus par terre, ils avaient marché dessus.
Oui,
un cambriolage,
c'est déjà traumatisant.
Ça a déjà
tapé
terriblement.
Ouais, ouais.
Mais des squatteurs chez toi, et encore, j'ai eu énormément de chance. Voilà.
Marquée par ce qu'elle a vécu, Myriam ne jure plus que par les caméras et la télésurveillance. Chez elle, chaque angle est surveillé. Et aujourd'hui, elle plaide pour que l'ensemble du village soit placé sous œil électronique.
Alors, ça serait moi, je mettrais des caméras partout. Ah, mais déjà dans les rues, à l'entrée du village, à la sortie du village, au milieu des villages, il faut mettre des caméras partout.
Ouais. C'est vrai que...
Et je vais te dire, quand on a vécu des choses comme nous,
tout à fait, on comprend ça. On peut que le comprendre.
Un point de vue qui n'est pas forcément celui d'Alexis.
Donc, je peux vous montrer.
Alexis, 35 ans, et sa femme Joël, 33 ans, vivent aussi à Rouenville. Et eux aussi ont été victimes de plusieurs tentatives de cambriolage.
Il devait être à peu près 4 heures du matin. Ils sont rentrés par le garage et ensuite ils sont passés par cette porte-là. Et il a réussi à rentrer dans la cuisine, mais il a dû tomber nez à nez avec mon chien parce que mon chien, je l'ai entendu tout de suite aboyer. Et quand on est descendu, cette porte-là était fermée et tout était ouvert et même le portail. Le temps qu'on descende, il était parti, quoi.
C'est à leur chien, Kaiser, qu'Alexis doit son salut.
Eh, heureusement que t'es là, toi. Hein, tu surveilles bien la maison, tu fais bien ton taf.
Si on l'avait pas, le chien, je serais moins rassuré quand même, surtout la nuit, quoi. Surtout qu'il a quand même fait fuir 3 fois les cambrioleurs, donc... Non, je pourrais plus faire sans chien.
Alexis et Joël en sont convaincus, pas besoin de caméras de surveillance pour contrer les cambriolages.
Pour moi, la chose la plus dissuasive, c'est le chien, quoi. Pour moi, un cambrioleur ne va pas s'embêter dans une maison avec un chien. Il préférera passer à la maison à côté qui est complètement vide.
Mais à l'approche de leurs vacances, le couple préfère miser sur la vigilance humaine.
Ça va, tu vas bien?
Et toi?
Ça va.
Pendant leur absence, c'est Manu, un ami proche, qui veillera sur leur maison.
Donc je te fais faire le topo, comme d'habitude.
Ouais,
tu fermes les volets le soir et tu les réouvres le matin.
Ouais.
Pour montrer qu'il y a du mouvement dans la maison. Voilà, tu vérifies si la porte de garage est bien fermée à clé. Pareil devant, s'il n'y a pas de souci au niveau des fenêtres.
Ok.
Ah, la situation idéale pour moi, ce serait qu'il y ait quelqu'un H24 dans la maison.
Malgré toutes les précautions d'Alexis et Joël, l'inquiétude ne quitte pas la jeune femme. La sécurité en ville reste pour elle une source d'angoisse.
J'ai peur, effectivement, parce que Mathéo me demande souvent de sortir seule, hein, pour aller faire du vélo, pour aller se promener. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué que non, j'étais pas rassurée.
Déjà, quand je te demande pour sortir tout seul, c'est pas la nuit. Hein. C'est, je vais pas sortir la
oui,
nuit.
Oui, mais il peut se passer n'importe quoi. Il n'y a pas de caméra.
Il va pas me kidnapper à 16h30 ?
Bah si, Mathéo. Non ? Il peut se passer n'importe quoi, comme il n'y a pas de caméra.
À Rouenville, l'inquiétude grandit. Le maire doit agir vite. La télésurveillance est-elle le seul moyen de protéger la communauté ? Est-ce que les habitants seront tous d'accord ? Des tensions vont-elles naître au sein du village ? Blainville-sur-Mer, en Normandie. Chaque matin, pour Majda, 62 ans, c'est le même rituel.
Je vérifie toujours, quand je me lève, ce qui se passe dehors. Je regarde mes caméras pour voir si on m'a pas recassé la porte, par exemple. Et ça devient tellement une habitude que je ne fais même plus attention. Tout est OK, parfait.
Victime d'un cambriolage dans son garage il y a quelques semaines, Majda ne se sent plus tout à fait chez elle.
Ils ont vraiment fracassé la porte. La porte a été complètement coupée en deux. Ils ont donné des coups de pied, ça c'est ce que le menuisier m'a dit. Et ils ont utilisé un pied de biche. Et pour voler quoi ? Pour voler 3 bouteilles d'alcool. Est-ce que c'était, entre guillemets, une mise en bouche ? Est-ce que c'était une reconnaissance ? Avoir pénétré aussi violemment dans un lieu pareil pour 3 bouteilles, c'est assez surprenant. Ce qui est traumatisant, c'est de se dire ben, « j'aurais pu tomber nez à nez avec cette personne ». On pénètre dans votre intimité. Moi, j'assimile ça, effectivement, à un viol.
Ce n'est pas le montant du vol qui impacte la vie quotidienne de Majda. C'est la violence invisible de l'intrusion, car pour la retraitée, ce n'est pas la première fois. En 2017, Majda et sa compagne Nicole habitaient à Paris. Il était minuit. Elle rentrait d'une soirée. En ouvrant la porte, elles ont découvert la lumière et la porte-fenêtre grande ouverte. Leur appartement sans dessus-dessous. Bijoux, ordinateurs, matériel, photos, chaussures, tout a été emporté. Des objets irremplaçables, certains chargés de valeurs sentimentales. Ce cambriolage, violent et dévastateur, a laissé Majda traumatisée. Elle a perdu bien plus que des biens matériels, un sentiment de sécurité, un foyer où se sentir protégée. Incapable de rester à Paris, elle avait choisi Blainville pour retrouver la sérénité. Mais ce nouveau cambriolage fait remonter ses angoisses.
Après le premier cambriolage à Paris, j'avais qu'une envie, c'était partir de Paris. En l'espace de un mois, l'appartement a été vendu. Et la maison, ici, j'ai acheté en 5 minutes. L'endroit a été absolument idyllique. Les premiers abords étaient quand même assez encourageants.
Aujourd'hui, tout recommence pour Majda. Traumatisée, elle s'accroche au précieux soutien de son amie Agnès. Ensemble, elles ont instauré un nouveau rituel depuis quelques semaines. Une ronde de voisinage pour veiller, se rassurer et tenter de reprendre un peu de contrôle sur l'angoisse.
Il y a eu des vols de remorques.
À côté, là, chez les voisins ? Moi, j'ai acheté une remorque, mais j'ai acheté un antivol.
C'est
pour
bien.
Qu'on puisse pas la prendre.
Après ton cambriolage, t'étais quand même stressée. Hein.
Oui.
Tu voulais changer de voiture, mettre des caméras partout. Non, elle n'était pas rassurée. Hein, mais non. Je la comprends. Vivant seule, pas facile.
Au fil de leur ronde, Majda et Agnès découvrent, non sans surprise, que la télésurveillance est déjà installée chez plusieurs habitants de Blainville.
Tu vois la lampe ? C'est une caméra. Tiens, regarde, viens voir. Ils ont une alarme.
Ouais. Là, il y a une caméra. Non, c'est un détecteur de présence.
À l'inverse de Majda, Agnès reste réservée face aux caméras. À ses yeux, leur installation est une réponse un peu excessive qui ne lui correspond pas vraiment.
Moi, je n'ai pas de caméra et j'ai un portail électrique qui me sécurise, à mon avis.
Ah oui ?
Ouais. Ouais, je suis rassurée.
Je pense que
comme tu pars aussi une semaine,
ouais.
Pourquoi tu t'installerais pas une caméra?
Bah non, je préviens la police municipale dans ces cas-là, ils font des rondes.
Oui, mais ils passent pas systématiquement. Hein.
Oh oui, moi je suis pas... Non. Non, même pas peur.
Tu ne vois peut-être pas de caméra à l'extérieur, mais je peux te dire que tu peux en installer à l'intérieur, elles sont invisibles. Tu peux avoir des lampes et tu as une vision sur l'extérieur.
Ah oui,
ah, oui. Oui, 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 oui.
Trop de la lampe.
Hein. Je me suis renseignée.
Oui.
De retour chez elle, comme chaque soir avant que la nuit tombe, Majda prend soin de tout verrouiller. Un geste devenu une habitude essentielle pour retrouver un peu de sérénité.
Je vérifie tous les soirs les portes pour plus de sécurité. Vérifier que tout est en place. On ne sait jamais, comme ça, le matin, quand je repasse, je vois si quelque chose a changé ou pas. Donc maintenant, je vérifie en face. La porte est mal fermée.
Il n'y a pas que les cambrioleurs qui laissent une maison vide. Depuis le décès de Nicole, son épouse, il y a 6 mois, Majda affronte seule chaque soirée. Et quand la lumière décline, la solitude fait grandir la peur.
On se sent profondément seul, intérieurement. Et c'est vrai que quand on est accompagné, en fait, on se fiche des bruits. On fait pas attention aux bruits. Puis il y en a à voir, puis on se sent quand même plus fort à deux. Alors que quand on est seul, c'est fatigant de savoir qu'on peut être aussi vulnérable. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'installer des caméras.
Meurtrie mais déterminée, comment Majda va-t-elle reprendre le contrôle? Que va-t-elle tenter pour retrouver sa sérénité? Et si, pour se sentir enfin en sécurité, la seule solution était de tout quitter? Retour à Montpellier chez Laurie, cette maman connectée qui fait du contrôle parental une véritable routine grâce à une application dédiée.
On passe le téléphone ?
Oui.
Mais c'est surtout sur son fils Maxence, âgé de 14 ans, que Laurie redouble de vigilance.
Je peux regarder ta localisation, je peux regarder qui c'est qui t'appelle, qui c'est qui t'envoie des SMS, je peux déclencher ton micro, donc je peux entendre tes discussions ou tes cours, tu vois ? Et je peux aussi déclencher ta caméra à distance. T'étais au courant de tout ça?
Non.
T'as l'impression de te sentir fliqué?
Ben, c'est pour votre bien.
Je pense que l'application, elle sécurise et toi, et nous.
Le lendemain, Laurie retrouve Eva, sa belle-fille âgée de 17 ans. Les deux femmes sont très proches.
J'étais l'une des seules à fliquer ton téléphone.
Ah oui, maman, elle le faisait pas, ni papa, personne.
Laurie n'a pas basculé dans la surveillance par hasard. Tout a commencé après un choc, un événement marquant qui la bouleverse encore aujourd'hui. À ce moment-là, Eva n'avait que 12 ans.
Tu te souviens, un jour, t'étais allée au boulot avec
papa.
Oui, je
me rappelle.
Et il était rentré tout heureux en disant « elle a un petit chéri
». Oui.
Et donc ce petit copain, tu l'avais rencontré comment?
Sur un réseau social.
Et je t'ai demandé de faire un appel avec lui.
Je m'en rappelle.
On s'est rendu compte qu'il avait quand même une voix assez grave.
Et très grave, oui.
Et que c'était pas du tout
le petit garçon que je pensais que c'était, en fait.
Quand j'ai entendu cette voix, j'ai vraiment pris peur.
Un événement décisif, un danger bien réel. Laurie découvre que le jeune garçon n'était pas celui qu'il prétendait être, mais un prédateur sexuel. Sa réaction peut être jugée extrême à l'époque, prend alors tout son sens. Elle bloque immédiatement toutes les applications utilisées par Eva pour la protéger.
Je regrette parce qu'on est vraiment tombé dans une obsession à un moment donné. Un besoin d'avoir...
Oh, c'était trop, hein.
Tout le temps
Eva,
le téléphone.
Donne-moi ton téléphone. T'es pas ma mère et tu te permets de me fouiller mon téléphone, quoi. Je me suis dit, mais où on est, là? Sauf qu'après... Ben non, franchement, ça nous a bien rapprochés quand même. Hein.
Quand j'étais jeune, j'étais livrée à moi-même et ça me fait un peu... Ça me fait un effet miroir.
Ouais.
Et je pense que c'est dur de revivre des situations, que le schéma se reproduise, ouais, mais chez quelqu'un d'autre, et de le voir en direct et de se sentir impuissante.
Ouais, oui, je vois. J'ai eu tellement, tellement peur que j'ai tout arrêté.
Donc ça t'a servi de leçon?
Ah ben oui. Oui, oui. C'est du passé même.
C'est ça.
Après cette épreuve, Laurie a donc renforcé sa vigilance. Agathe, son amie de longue date, a de son côté sa propre méthode de contrôle parental et ses limites.
Comment tu gères au niveau des écrans tes enfants, en fait ?
Ce que j'ai, c'est une appli de contrôle parental basique. Je cadre en mettant le nombre d'heures que je veux par jour maximum. À quelle heure ils doivent s'éteindre, les écrans. Moi, je suis dans une optique de confiance où j'ai du mal à surveiller. J'ai l'impression de les fliquer et ça, j'ai du mal.
Tu penses que toi, c'est fliqué ?
Ouais, c'est l'impression que j'ai.
Si toutes deux veulent protéger leurs enfants, elles n'empruntent pas forcément le même chemin.
On peut être tenté de vite regarder tout ce que notre enfant fait. Donc il ne faut pas rentrer dans une parano non plus, il faut laisser nos enfants vivre.
Entre inquiétude et lâcher prise, Laurie cherche encore le bon dosage.
Je suis dans un dialogue avec mon fils, il me dit « Maman, ça me gêne », j'arrêterai catégoriquement. Je respecte totalement son intimité en même temps.
Laurie le sait, ses enfants vont grandir, réclamer plus de liberté, plus d'intimité. Et ces outils, eux, auront leurs limites. Mais pour Laurie, tant que le dialogue reste possible, le lien tiendra. Alors elle veille en gardant toujours en tête ce leitmotiv, les surveiller pour les protéger, mais sans les étouffer. Nous retrouvons Nicolas sur le terrain en filature d'un époux infidèle. Contre toute attente, le mari et sa maîtresse stationnent hors du parking de la gare. Nicolas doit réagir vite pour capturer des preuves en photo.
Il revient vers toi.
In extremis, il réussit à avoir un premier cliché.
À mon avis, ils vont à la gare, là.
La deuxième partie de la filature commence, plus risquée. Le détective doit monter dans leur wagon pour ne pas les perdre de vue. Installé juste derrière eux, malgré l'adrénaline, Nicolas doit patienter. Il ne peut pas prendre de photos sans se faire repérer. C'est à la sortie du train que la chance va à nouveau lui sourire et qu'il va saisir, tapis derrière eux, la photo compromettante du couple se tenant par la main, preuve flagrante de l'adultère.
Mais la mission s'est bien finie pour le client. On a eu toutes les photos et les vidéos où ils se sont officiellement enlacés, tenus dans les bras. Si jamais il y avait le moindre doute sur la nature de leur relation, le doute est maintenant levé.
Une filature à haut risque menée sous tension jusqu'à la dernière seconde.
Et c'est vrai que rien n'est gagné. On l'a vu jusqu'à la fin, il y a toujours une pression, il ne faut rien lâcher, et même jusqu'à la preuve.
Après plus de 30 heures de travail, Nicolas touchera entre 2000 et 3000 euros pour cette affaire. Dernière étape, sans doute la plus délicate pour Nicolas, appeler sa cliente encore amoureuse et lui confirmer l'adultère de son mari.
Oui, Nicolas, pareil, vous allez bien ?
Oui, bonjour. Alors, ils sont partis ?
Ouais, donc ils sont partis, effectivement, et comme deux amoureux, hein. Voilà, ouais. Les deux amoureux se tenant par la main, s'embrassant, voilà.
D'accord.
Encore éprise de son mari infidèle, la cliente doit maintenant affronter la réalité. Nicolas l'accompagne avec tact pour l'aider à entamer une procédure de divorce.
Maintenant, il faut vraiment aller jusqu'au bout et ouais. Voilà, vous pouvez pas vous dire...
Il faut trouver le courage de le faire, après c'est pas facile de passer le cap. Je vous disais l'autre jour, ça serait quand même beaucoup plus facile si je le haïssais, quoi.
Ouais, mais je pense que là, il y a un manque de respect. À un moment donné, là, c'est vous dire que de toute manière, il n'y aura pas de retour possible. Vous avez un très bon dossier, vous avez tout pour gagner maintenant.
D'accord.
Donc,
pour cette femme, le travail du détective marque la fin d'un chapitre.
Merci, à très vite. Au revoir.
Au revoir.
En moyenne, Nicolas traite une quinzaine de dossiers par an et une bonne partie concerne des histoires de couple souvent liées à l'adultère. En France, ils sont de plus en plus nombreux à se passionner pour l'investigation. On compte aujourd'hui près de 3000 détectives privés dans l'Hexagone.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
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 Donc, vous savez pourquoi vous êtes là ?
Oui.
Un métier en pleine ascension, au point que Nicolas consacre désormais une partie de son temps à transmettre son savoir à des élèves.
Pourquoi vous avez souhaité exercer ce métier un peu particulier ?
Parce que j'ai envie de faire du terrain. J'aime bien être à l'extérieur, j'aime bien bouger, donc
C'est pour ça que je suis venu là.
Derrière son image romanesque, popularisée par le cinéma, le métier de détective est strictement encadré par la loi.
Vous observez une maison, quelque chose se passe dans le jardin. Est-ce que vous pouvez prendre des photos?
Non.
Pourquoi?
Ça fait partie du domicile.
Ouais. La voiture aussi est un lieu privé. Et à cause de votre photo, qui est une atteinte à la vie privée, tout votre rapport peut sauter.
Ce matin, pour confronter ses élèves à la réalité du terrain, Nicolas leur propose un exercice grandeur nature. Objectif, tester leur capacité à se fondre dans le décor. Le scénario, une entreprise soupçonne un ancien salarié de débaucher ses collègues et d'avoir volé le fichier client. Chaque élève se voit attribuer un rôle.
Toi, Georges, tu vas faire l'ex-salarié. Toi, Arnaud, tu vas être le salarié actuel de notre client qui va rencontrer l'ancien salarié. Et toi, Dylan, ton objectif à toi, ça va être de matérialiser la rencontre entre les deux personnes et de voir s'il y a un échange.
Ça marche.
Allez, on y va, go.
La filature commence. Dylan, dans le rôle du détective, doit suivre un autre élève jouant le salarié sans jamais se faire repérer.
Donc là, il y a une zone à risque à un moment donné. Il a pris l'initiative de se désilhouetter, c'est-à-dire qu'il avait pris préalablement une petite veste qu'il a mis. Et puis, il a repoursuivi la filature à une quinzaine, vingtaine de mètres derrière. C'était pas mal. Bel exercice.
Sur un banc, les deux faux salariés échangent discrètement un disque dur. À quelques mètres, Dylan filme la scène avec sa caméra. C'est le moment clé, le flagrant délit. Il s'agit de capter discrètement la preuve qui matérialise le vol présumé. Mission accomplie avec sang-froid et brio par l'élève.
Là, je trouve que tu t'es assez bien débrouillé sur la mise en place. Tu as capté le moment essentiel qui était l'échange du disque dur. Donc là, mission réussie. Je pense que le client va être content du travail. Donc félicitations, Dylan.
Parfait, merci.
Entre deux cours ou filatures, malgré un métier exigeant, Nicolas trouve toujours du temps pour ses deux enfants, dont sa fille Lorraine.
Salut papa!
Comment tu vas?
Ça va et toi?
En forme?
Oui.
Allez go, on y va. Hop!
Au programme cet après-midi, une passion que père et fille partagent, la boxe.
Ça a été ta journée aujourd'hui?
Ouais.
T'as fait quoi? T'as fait un peu le ménage? On va se faire un bon petit repas ce soir.
Ouais, ça va faire du bien, j'ai faim.
T'as envie de manger quoi?
Barbecue.
Barbecue?
Oui, j'ai faim.
Divorcé, Nicolas doit concilier les exigences de son métier très prenant avec sa vie de famille. Entre les deux, l'équilibre est fragile.
J'essaye d'être là tous les soirs. Ouais. Quasiment tous les soirs, c'est pas toujours évident parce que mon métier, c'est un métier très prenant avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de pression. Et des fois, j'ai envie de partager des moments comme ça, des moments tout simples où on va être tous les deux.
Du haut de ses 16 ans, Lorraine porte un regard mature sur le métier de son père qu'elle considère comme un véritable héros.
Quand je pose la question à mes amis, par exemple, c'est « Oh, Sherlock Holmes !» Alors que pas du tout, en fait. C'est un métier incroyable parce qu'il vient en aide. Quand je l'entends parler au téléphone, les gens, ils sont à deux doigts de pleurer. Parce qu'en fait, ils sont tellement contents, rassurés quand ils leur apportent des choses, etc. Enfin, je suis fière. Je suis vraiment très, très fière de son métier. Oui, je suis vraiment très fière. Je suis très, très fière.
Tu pourrais faire ce métier ?
Non, c'est... Je suis pas discrète dans mon quotidien, donc bon, c'est pas pour moi. Ah.
À Rouenville, le maire Guillaume Bellinili a décidé de prendre les choses en main pour assurer la sécurité de ses habitants.
Ah bien, on va regarder les caméras, Jean-Yves.
Ouais.
Toujours accompagné de Jean-Yves, son premier adjoint, il dévoile sa stratégie pour faire face à l'incivilité et à l'insécurité. Installer prochainement des caméras de vidéoprotection placées au point clé de la ville.
Donc tu vois, Jean-Yves, là, on va en mettre là, à la corniche, là. Et en fait, tu vois donc là, l'église,
là, ouais.
L'angle des trois rues, la bibliothèque et une partie de l'école. Mais surtout aussi, tu vois les abords de l'école, tu
et
vois, pour la sécurité. Donc ça, c'est pas mal.
Plaque d'immatriculation, sortie d'école et parking. Grâce à ces caméras placées judicieusement, le maire pourra mieux protéger la ville et en renforcer la sécurité.
et on pourra prendre les IMAT au cas où, si c'est un délit,
ah bah, c'est
si c'est un délit ici.
Relevé de plaque minérale.
Exactement, ouais, ça c'est bien, c'est impeccable.
Le but ultime de ce genre de discussion, c'est de savoir qui rentre dans la commune avec son véhicule, notamment quand on les met en entrée de village, et qui vient essayer en fait de fracturer ou de cambrioler.
Un pari risqué pour le jeune maire. Cette solution pourra-t-elle vraiment rassurer les habitants et accepteront-ils de vivre sous une surveillance permanente ?
Pour éviter une surveillance intrusive, il faut déjà avertir les gens qu'il va y avoir des caméras dans la commune. Donc là, il y a une signalétique à installer, il y a des panneaux à mettre aux entrées de la commune pour dire qu'on va filmer. Deux, il faut faire bien comprendre aux gens qu'on ne peut pas voir ce qui se passe chez eux. Tout est flouté ou noirci. Donc on ne peut pas, quand on a une caméra qui donne sur la rue, on voit la rue, mais on ne voit pas les maisons.
On les floute.
On les floute ou on les noircit. Et trois, bah, si on a besoin de filmer chez des personnes privées, là, il faut leur demander leur accord.
Déterminé à rassurer ses administrés, le maire organise une réunion d'information pour dévoiler son plan d'action face à l'insécurité.
Qui a connu en fait une tentative de cambriolage ou un cambriolage à Rouenville ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Donc l'enjeu de la réunion ce soir, c'est de vous faire comprendre qu'il faut qu'on ait le plus de monde possible qui s'implique dans la participation citoyenne.
Mais c'est pour ça qu'il faut des caméras.
Voilà,
Moi, je suis à fond caméra. Les caméras vont être beaucoup plus dissuasives que le groupe WhatsApp, à mon avis.
J'ai un doute sur l'efficacité, en fait.
C'est vrai.
Des caméras. Si le mec vient avec une fausse plaque et cagoulé, bon, ben on va juste voir un mec cagoulé forcer une maison, quoi.
On va faire le nécessaire. On va faire le maximum, on a toujours fait le maximum, pour que les gens se sentent tranquilles chez eux, qu'il y ait un sentiment de sécurité renforcé, et pour que tout le monde dorme tranquillement aussi la nuit. Compte tenu de ce qu'on s'est dit, on voulait savoir aussi si on pouvait compter sur vous dans cette dynamique.
Oui, bien évidemment. Bien sûr.
Si on est là ce soir, c'est mieux.
Merci beaucoup.
Malgré quelques points de divergence, à la fin de la réunion, les habitants semblent enfin rassurés. Grâce aux caméras qui seront installées en 2026 à des points stratégiques, le sentiment de sécurité pourra peut-être, avec le temps, se renforcer et offrir à chacun des habitants de Rouenville une tranquillité d'esprit retrouvée. Retour à Blainville-sur-Mer, en Normandie. C'est ici que Majda a été cambriolée il y a quelques semaines dans le garage de sa maison. Depuis, la peur ne l'a pas quittée. Pour se sentir enfin en sécurité, elle se rend à la gendarmerie pour rejoindre le programme Tranquillité Vacances, une première étape pour tenter de retrouver un peu de sérénité.
Bonjour monsieur.
Que puis-je faire pour vous ?
Je viens pour l'opération Tranquillité Vacances, s'il vous plaît, parce que je pars quelques jours.
Mais vous allez venir avec moi. Je vous laisse vous asseoir ici. On l'a peut-être déjà expliqué, moi je vous l'aurais expliqué. Donc ça ne remplace pas un service de gardiennage de votre maison. Pour autant, nous, ça nous permet, durant nos patrouilles, de savoir sur le territoire où sont les maisons à risque et de pouvoir, au cours de nos patrouilles, passer devant votre maison et de vérifier si tout va bien.
D'accord. Je viens de faire installer des caméras vidéo.
Il faut voir l'ensemble comme un système. C'est plein de moyens d'action qui permettent de minimiser le risque ou de prévenir ce risque-là. Tout est bon à prendre.
Vous avez raison. Faut rien négliger.
Alors, je vous demandais une signature. Vous faites une bonne journée.
Merci.
Au revoir,
vous
madame.
Aussi, au revoir.
Néanmoins, pour Majda, cela ne semble pas encore suffisant. Alors elle envisage aujourd'hui de brancher deux nouvelles caméras, cette fois juste devant son garage.
Entre.
J'ai amené ma caisse à outils.
Avec l'aide d'Agnès, sa voisine, Majda installe une caméra, rotative cette fois, et capable de filmer même la nuit. Une installation simple en apparence.
Voilà, chouette, ça marche.
Mais pour Majda, le chemin a été long et laborieux.
Mouvement détecté.
Car chaque geste, chaque branchement, c'est une reconquête, celle de son espace, de sa maison et de sa tranquillité.
Maintenant, je vais regarder systématiquement toutes les caméras, ne serait-ce qu'une minute. Juste pour me rassurer.
Majda inspecte minutieusement chaque caméra. Comme pour garder la maîtrise de sa sécurité et apaiser ses inquiétudes, elle veut s'assurer que rien ne lui échappe.
Là, je suis en train de regarder ce qui se passe dans le jardin. Je suis un agrandissement, voilà. Là, c'est bien, ouais, c'est top. Ce que je pourrais même regarder ce soir dans mon lit tranquillement, ça va quand même m'éviter de me déplacer.
Pourtant, malgré toutes ces démarches, le traumatisme reste profondément ancré pour Majda. Elle se retrouve confrontée à un dilemme, continuer à vivre à Blainville ou tout remettre en question.
Bonjour,
entrez. Merci.
Ouais. Aujourd'hui, elle reçoit la visite de Jérôme, un agent immobilier.
Donc vous avez fait appel à nos services, à l'agence, donc pour avoir une estimation de votre maison?
Oui, j'ai eu un événement particulier, j'ai eu droit à un cambriolage, donc je me sens beaucoup moins en sécurité.
Il fait que c'est plutôt difficile à protéger, donc c'est un petit peu ce qui vous fait peur.
Oui, disons que si j'avais une porte d'entrée, ça me suffirait. Okay. Alors que là, j'ai une, deux, trois, quatre entrées. Voilà.
Ce que je vous propose, en fait, c'est de vous suivre.
Ici, j'ai ma cuisine.
Pour Majda, le temps des compromis semble révolu. Plus qu'une envie, partir devient une nécessité. L'idée de tout quitter est peut-être sa seule issue.
Vendre une maison pour une intrusion, ça peut paraître extrême, effectivement, mais autant minimiser le risque. Voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense que c'est le fin mot de l'histoire.
Reste à savoir si ce choix radical suffira à apaiser ses peurs.
Enfants, conjoints, maison, faut-il tout surveiller? Laurie, alors, votre côté maman louve a énormément fait réagir dans le public. Ça a fait réagir Sandra Sisley également, notre grand témoin. Greg Yega, ici même. Ça a fait réagir parce qu'on se dit, c'est quand même fou de contrôler comme ça ses enfants. Vous, quand vous voyez ces images, vous dites je suis dans le vrai ou peut-être que j'en fais un peu trop?
Non, alors, c'est pas le bon mot, contrôler. C'est plutôt surveiller et protéger.
Et ça va pas trop loin, selon vous, le fait de pouvoir écouter leurs conversations, voir ce qu'ils regardent sur leur écran?
C'est quelque chose que je déclenche pas forcément. Après, si je vois qu'il y a un problème, on parle beaucoup d'harcèlement aussi actuellement, et ben là, oui, je déclencherai ces choses pour être sûre, parce que ben, vous pouvez regarder, mais tous les témoignages d'harcèlement, ben, ils disent rien aux parents. Et généralement, on les retrouve avec un drame. Donc, je préfère être trop derrière mon enfant que pas assez.
Il a 14 ans, aujourd'hui, votre grand garçon. À partir de quand est-ce que vous allez dire « je stoppe » ?
J'ai tellement peur dans le monde où on vit, en fait, que...
Mais vous avez... C'est quoi votre grande peur, Laurie ?
Une mauvaise rencontre.
D'accord. Oui, mais ça, vous pouvez pas le voir sur votre téléphone. C'est-à-dire que vous voyez qu'il prend le chemin pour aller à l'école, mais vous savez pas s'il est accompagné ou pas, en fait.
Alors, généralement, il part avec ses potes.
D'accord.
Donc déjà, je suis rassurée, il part pas tout seul. C'est quelque chose que je contrôle bien. Mais le contrôle parental, il me sert avant tout aussi à regarder le nombre aussi de temps qu'il passe sur les écrans.
D'accord.
Parce que, ben, ils passent beaucoup trop de temps, les enfants. Donc, ils ont, mais c'est contrôlé. Ça me sert à plein de choses. Ça me sert pas que à tout le temps être derrière eux.
Alors, Laurie, à côté de vous, vous avez un pro des réseaux,
ouais.
Qui est Greg Yega. Bonjour, Greg.
Bonjour.
Alors, vous réagissiez beaucoup, justement, au fait que Laurie contrôle, comme ça, finalement, les enfants via le téléphone. Pourquoi est-ce que vous réagissiez comme ça? Je vous ai vu très, très étonné en disant,
déjà,
on peut faire ça?
Déjà, de base, je savais même pas qu'il y avait une application qui existait comme ça, déjà. C'est ça qui m'a beaucoup étonné. Mais c'est vraiment une vraie dinguerie. Mais c'est même bien, moi, je trouve.
Ah, si vous avez le jour où vous avez des enfants, vous faites la même chose?
Ben déjà, moi, le jour où j'ai des enfants, déjà, moi, je pense que les réseaux, je vais leur faire commencer très, très tard, même si on vit dans un monde où c'est courant. Mais moi, je trouve que sur les réseaux, hein, y a beaucoup de choses qui... Il y a des choses bien, mais il y a des choses aussi qui sont très, très mal.
Mais c'est votre vie, les réseaux, pourtant.
Oui, ben justement, c'est pour ça que je dis ça.
Ah oui, d'accord.
C'est que moi, lors d'aujourd'hui, même moi, en tant que créateur de contenu, même moi... Alors d'aujourd'hui, je subis de l'harcèlement. C'est quelque chose de très dangereux et il faut surveiller. Et surtout que les réseaux, ce n'est pas la vraie vie.
Ça, on est d'accord. Voilà. Mais si vos parents avaient fait ça avec vous, vous auriez dit quoi?
Dis-la.
Je n'aurais pas été trop d'accord, quoi.
Ouais.
Mais à mon époque, à moi, mon premier téléphone, c'était un Samsung D500 à clapet. Donc, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut s'adapter.
Alors justement, vous avez un fils, Sandra Sisley, notre grand témoin ce soir, Dino, qui a 18 ans. Je vous voyais ouvrir de grands yeux en voyant Laurie, en fait, tout ce qu'elle faisait via les téléphones. Est-ce que vous avez déjà installé ce genre de logiciel sur le portable de votre fils?
Alors non, déjà, bonsoir Laurie.
Effectivement, j'avais des grands yeux parce que je pense qu'il y a, d'abord la traduction d'un énorme traumatisme chez Laurie. Ouais. Avant tout, l'intrusion de cette personne dans la vie de votre fille, une personne qu'on ne trace pas, puisque c'est un vrai problème, en fait, le fait que l'anonymat sur Instagram et sur les réseaux ne puisse pas être levé. Donc, je comprends ça. Maintenant, dans l'expression de votre traumatisme, je pense que vous vous enfermez dans une espèce de course et de fuite en avant vers l'ultra-contrôle. Et au final, on ne sait jamais tout. Et je pense que le fait de prévenir les enfants, de leur parler, de les éduquer... vous me posiez la question par rapport à mon fils Dino, que j'ai élevé seul. J'ai été confrontée au fait que j'ai dû lui acheter un téléphone portable puisqu'il est issu de parents divorcés. Donc pour moi, c'était le moyen d'avoir de ses nouvelles quand il était chez son papa. J'en avais besoin et envie pour des raisons personnelles. Je pense que si j'avais pas été dans cette situation-là de femme séparée, je n'aurais jamais donné un téléphone portable à mon fils avant ses 13 ans, honnêtement. Je vois chez vous que vos enfants sont très jeunes et ils ont des téléphones très jeunes. Et ce qui me fait de la peine, en fait, c'est de voir que votre bourreau, c'est ce que vous avez offert à vos enfants. C'est-à-dire qu'ils ont des téléphones très jeunes. Du coup, ça provoque une volonté de contrôler ce qu'il y a dans cet objet qui peut être génial pour prévenir les violences conjugales, les choses comme ça. Mais en fait, on fait rentrer l'étranger et l'inconnu chez soi. Donc, le fait d'avoir des téléphones très jeunes, et je rejoins monsieur là-dessus, je pense qu'il y a un âge. Et puis ensuite, il faut à la fois, et là, c'est le côté compliqué de la maman, il faut à la fois contrôler, mais aussi leur laisser leur intimité et leur indépendance. Et puis, je pense qu'à partir d'un certain âge, on aime mieux savoir ce qu'ils font pas. Oui. Parfois, c'est mieux.
Alors, contrôler, dialoguer, surveiller, quelle est finalement la bonne chose à faire avec les enfants, avec la surveillance? Eh bien, on va en parler tout de suite avec notre psychothérapeute, c'est Paola Schemama Ita. Paola, on vient d'entendre le témoignage de Laurie, de ce qu'elle faisait justement avec ses enfants pour contrôler, entre guillemets, parce qu'elle n'aime pas ce terme, leurs faits et gestes sur le téléphone. Est-ce que c'est elle qui est dans le vrai ou est-ce qu'au contraire, il faut que nous, parents, on apprenne à lâcher, quoi?
Alors, en fait, il n'y a pas de vérité absolue, mais effectivement, quand on est dans l'excès, ça veut dire qu'au lieu de regarder ses enfants, on se regarde peut-être un peu trop notre propre histoire.
Est-ce que c'est une bonne chose de géolocaliser ses enfants, même s'ils sont au courant?
Alors, c'est toujours pareil. C'est toujours pas une mauvaise chose ou une bonne chose. Il faut savoir le faire, en fait, à bon escient. C'est-à-dire, il faut pas que ça soit non plus avec un hyper contrôle ou une hyper vigilance. On reste vigilant, évidemment. On a envie de savoir où ils sont et de pouvoir les accompagner au mieux. Mais c'est les accompagner et pas leur dicter ce qu'ils doivent, où ils doivent être, à quel moment et comment et avec qui parler. Plutôt leur laisser aussi un peu cette liberté pour ne pas qu'après ils contournent, mais qu'ils apprennent par eux-mêmes à réguler.
On leur dit, on leur dit pas?
On leur dit.
D'accord.
On leur dit. Parce qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance dans un sens comme dans l'autre.
Alors, on va continuer à parler de surveillance, évidemment, dans cette émission avec Nicolas, notre détective privé. Nicolas, on a suivi votre filature rocambolesque. Ça vous est déjà arrivé de refuser une mission en vous disant « Ah, je ne peux pas faire ça, je vais briser un couple ».
Alors, je ne dirais pas, c'est pas que je vais forcément briser un couple, mais des fois, certaines demandes peuvent être illégales.
Pourquoi ?
Ben, par exemple, on parlait de surveillance beaucoup, justement, parce qu'il est très facile aujourd'hui avec des applications ou des objets qu'on peut acheter sur Internet, sur des sites en ligne pour contrôler, pour surveiller, pour espionner.
D'accord.
C'est une atteinte à la vie privée, à l'intimité. Et puis, d'autre part, dans le cadre d'une procédure de divorce ou autre, il faut que la preuve soit recevable.
D'accord.
Donc, si jamais on dit, on a su que cette personne était à tel endroit et comment, ben parce que j'ai posé un AirTag ou une balise, bon ben là, je tombe sur le coup de la loi, mon rapport tombe et moi, je me fais attaquer.
Alors, ce que j'ai retenu aussi du reportage, c'est qu'on pouvait être infidèle, mais dans des lieux privés. C'est-à-dire que dans la voiture, il n'y a pas de problème. Dans la maison, il n'y a pas de problème. Il ne faut juste pas aller dans la rue, quoi.
Alors, nous, il nous est arrivé, dans certaines situations, de découvrir une relation amoureuse à l'intérieur d'une voiture. Mmh. On était présents, à proximité, mais on n'a pas pu produire la photo.
Ah oui, parce que c'est un lieu privé.
C'est un lieu privé.
Laurie, est-ce que... Alors, on a vu que vous surveillez vos enfants. Est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas dit, tiens, je pourrais aussi surveiller mon mari?
Mais jamais de la vie.
Je pose la question.
Hein. Bien sûr que non. Non.
D'accord.
En fait, je pense qu'il en a assez d'une femme.
D'accord. Ah oui, OK. Mais c'est vrai que souvent, on se dit, Paola, dans un téléphone, quand on cherche, on trouve.
Ah bah, effectivement, si on cherche, on trouve, mais c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est-à-dire que souvent, on va essayer d'avoir une preuve de ce qu'on avait envie de découvrir, qui n'est pas forcément la réalité. Donc, on va aller chercher quelque chose qui va corroborer notre version.
Alors, on va parler de la surveillance de maison maintenant avec vous, Myriam. On vous a vu dans le reportage, vous avez été cambriolée, vous avez été squattée. On vous sent totalement traumatisée par ces événements.
Ah bah, je vous assure que quand on trouve 4 junkies et 5 chiens dans sa maison,
oui,
on tombe dessus. Et encore, j'ai eu beaucoup de chance. En rentrant chez moi, j'ai vu la tête d'un chien, donc j'ai fait demi-tour en croyant qu'il y avait juste un SDF qui était là. C'est les gendarmes qui les ont fait sortir. J'ai eu énormément de chance parce qu'il y en avait deux qui étaient arrivés la veille au soir. Parce que vous savez, il y a ce fameux délai des 48 heures.
Tout à fait.
Voilà. Mais c'est traumatisant parce que déjà, on se dit, ils ont dormi dans les draps, ils ont tout foutu. Ben voilà, c'est oh, la chambre, je l'ai retrouvée.
On voit la photo.
C'était, ils avaient tout cassé. Tout. Au départ, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le reportage, j'ai voulu revendre la maison. Je ne pouvais plus. C'était. Oh là, pardon. C'était une intrusion qui était tellement violente, en fait. C'est pire qu'un simple cambriolage, sauf quand il y a le carjacking et que les gens sont là. Ça doit être aussi ultra traumatisant.
Et comment on fait pour rester dans un endroit comme ça, qui a subi des dégradations? On sait qu'il y a des gens qui ont forcé votre porte, vécu dans votre salon.
Alors, j'habitais pas là à l'époque.
D'accord.
C'était ma maman qui y habitait. Donc j'ai voulu tout débarrasser. Heureusement, j'ai eu des amis qui m'ont aidée. J'ai eu une entreprise de nettoyage qui est venue et tout. Et puis j'ai pu tout remettre. C'est resté pendant plusieurs années un traumatisme au point que j'ai mis les caméras. Voilà, j'ai mis une caméra à l'intérieur. D'ailleurs, je vais en mettre une deuxième dans ma chambre. Et j'en ai mis une à l'extérieur, mais derrière.
Pourquoi dans votre chambre?
Ben, je sais
oui,
pas.
Moi, j'aurais peur, en fait, que le mec derrière la caméra, je veux dire, trafique la caméra et voit ce qui se passe dans ma chambre. Vous voyez, je serais pas hyper tranquille, en fait.
Mais c'est pas pour ça, c'est parce que j'ai un pavillon de plein pied. Donc, il y a plein d'entrées possibles.
Okay.
Donc, j'ai une caméra qui est sur l'entrée principale. D'accord. Et puis, je me dis qu'en mettant une autre caméra de l'autre côté, si jamais ils forçaient d'un autre côté, je pourrais les voir aussi. Enfin, bon, bref. Et j'en ai une, donc, derrière. Et je vais en mettre une devant. Alors, je sais que monsieur le maire ici présent n'est peut-être pas tout à fait d'accord parce que je vais avoir la vue sur la rue.
Je crois qu'on n'a pas le droit.
Oui, mais moi, tant qu'il n'y a pas de caméra, parce que moi, j'en mettrai partout, moi. Hein. J'en mettrai pas seulement à l'entrée du village et à la sortie, j'en mettrai aussi au milieu, quoi.
Mais il y a la loi, Myriam, qui normalement est bien faite. Oui, il y a l'argent de monsieur le maire et il y a la loi.
Oui.
Monsieur le maire, justement, vous entendez l'inquiétude de Myriam et de certains de vos administrés. Donc finalement, il y a des caméras aujourd'hui à Romainville?
Pas encore. Pas encore. On a fait un projet avec une douzaine de caméras en fait, donc aux entrées du village pour voir qui rentre et qui sort, et surtout sur les équipements publics, parce qu'on s'est fait cambrioler nous-mêmes en fait en tant que collectivité, le centre technique, un certain nombre de reprises. Et
vous avez volé quoi?
Voilà, on a tenté de de forcer la porte pour voler le matériel en fait du service technique d'entretien de la commune des espaces verts.
D'accord.
On s'est fait voler un camion qui nous permet de faire l'entretien de la commune, ce qui nous a ralenti pendant presque un an. On s'est fait voler un taille-haie.
C'est Chicago, voilà. Chez vous.
C'est Chicago, ouais, ça ressemble à Chicago, mais en réalité, non, c'est assez. Il y a beaucoup de cas de ce type-là, mais qui sont peu visibles et dont les gens se rendent peu compte. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité un peu participer à cette émission, parce qu'en fait, y compris dans les villages ruraux, vous avez ce type de phénomène qui s'étend, en fait, tout simplement.
Puis, ce qu'il y a, nous, c'est qu'on a le RER pas loin. Et quand j'ai eu les squatteurs, les gendarmes m'ont dit qu'avec le RER, effectivement, ils viennent, ils squattent. Oui. Voilà, c'est...
Mais ça permet aussi, le RER, aux gens d'aller travailler, par exemple.
Oui, enfin, oui, bien sûr.
On
ne
peut pas enlever le RER non plus. Non. Vous voyez, Myriam, là, c'est compliqué.
Oui, c'est paradoxal. Ouais, c'est vrai.
Et on est bien d'accord, monsieur le maire, qu'en fait, on n'a pas le droit. j'ai de mettre des caméras comme ça partout qui filment la voie publique.
Alors, deux choses. On n'a évidemment pas le droit de filmer en dehors de chez soi. Ouais. De la même manière que la mairie, quand elle aura des caméras, ne peut pas filmer chez les gens. Mais dans la réalité et dans les faits, on le sait, vous comme nous, peut-être pour la plupart dans le public, la gendarmerie a tendance à regarder aussi les caméras des privés. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, là, il y a eu un autre cambriolage, un vol à la roulotte là, d'un véhicule. Et la gendarmerie a demandé aux riverains de regarder sur la caméra pour voir où allaient les voleurs.
Donc il y a un petit laisser-faire quand même, quoi.
Je vous laisse.
C'est une entente tacite.
C'est la responsabilité, ce que vous dites, là, bien sûr.
Alors Majda, vous aussi, vous étiez allée vous installer à la campagne, finalement, pour laisser votre cambriolage parisien loin derrière vous.
Oui.
Et finalement, rebolote. On vous sent totalement désemparée et on vous sent. On sent que vous avez très peur, finalement, dans ce reportage. Et à chaque fois que la nuit arrive, c'est une souffrance pour vous.
Oui, d'autant que maintenant je vis seule. C'est vrai que je suis veuve depuis 10 mois maintenant. C'est vrai que lorsqu'on est seul, nous n'avons pas la même vision des choses. Je disais que les bruits, par exemple, les bruits, voilà, on les entend plus, ils sont beaucoup plus perceptibles seuls, on y fait plus attention. Alors certes, j'ai fait installer des caméras, c'est vrai. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est juste une fin en soi, c'est juste pour se rassurer. Alors j'ai mon fidèle compagnon, Pixel.
Oui, votre petit chien.
Oui, eh bien, quoi qu'il en soit, c'est mieux qu'une alarme. Parce qu'en fait, l'animal, lui, ressent plus les choses, il est hypersensible. Et je veux dire que je me sens beaucoup plus rassurée avec lui. D'autant que j'y tiens d'autant plus qu'il a déjà sauvé mon ami d'une maladie. Voilà.
Mais Majda, à la fin du reportage, on voit que vous hésitez à partir. Est-ce qu'aujourd'hui, votre décision, elle est prise ?
Ma décision est prise. Alors, c'est vrai que j'hésitais à partir parce que j'adore ce village.
C'est magnifique.
Alors, c'est plus que magnifique. J'y ai trouvé le repos par rapport à l'endroit où j'habitais avant, parce que j'ai subi un cambriolage qui était assez violent, on va dire, puisque tout a été... Je comprends tout à fait ce que dit Myriam. Tout a été sans dessus-dessous. On est monté sur le lit, on a cassé les meubles. C'était vraiment un viol, à tel point que nous avons fait installer des grilles. Nous étions... Le vol s'est déroulé au 2e étage, quand même. Les cambrioleurs sont montés sur le toit d'une résidence juste à côté. C'était assez violent. On n'osait plus dormir dans la chambre. On se sentait sali, vraiment, franchement. On se sentait vraiment très, très sale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vendu cet appartement, déjà, en Paris. On s'est dit que... On serait plus tranquille
à la campagne.
Bon, pendant 6 ans, ça a été extraordinaire. Mais tout ça pour dire que même à la campagne, on ne se sent pas tout à fait en sécurité. Et je pense qu'il y a un report de la délinquance parce que dans les grandes villes, on est de plus en plus outillé, on va dire, équipé de caméras. Il y a des villes où vous avez des caméras partout, dans tous les coins de rue. C'est vrai. Et
ce qui n'empêche pas les cambriolages.
Certes, on se disait que dans la campagne, on serait plus tranquille. Et en fait, je pense qu'il est de plus en plus facile pour les délinquants de se déporter dans des petits villages parce qu'on est moins à l'affût, on est plus confiant.
Bien sûr.
Et en fait, c'est plus facile.
Et si ça ne va pas à la ville et si ça ne va pas à la campagne, vous allez aller où ?
Sur une île.
Une île privée ?
Je passe aux îles Jersey.
Magnifique.
Voilà. Non, c'est un endroit magnifique. Donc oui, j'ai mis ma maison en vente, c'est vrai. Mais pour acheter quelque chose peut-être un peu plus petit, voilà, fermé, je n'oublierai pas les caméras. Quand même, parce que je pense que c'est une façon de se rassurer, pour les protéger. Voilà.
Alors, je me tourne vers vous, Greg Yega. Majda disait, on n'est pas en sécurité à la campagne, mais vous ne l'avez pas été en ville. Greg, on vous connaît, vous êtes une figure incontournable de la télé-réalité, mais vous avez aussi subi ces dernières années un homejacking, un braquage, un vol, une agression en pleine rue. Aujourd'hui, comment vous faites pour vous protéger, finalement ? On a l'impression que vous êtes une proie.
Du coup, maintenant, comment je fais ? C'est que je ne sors plus, déjà pour commencer, je reste dans ma maison. Moi, je préfère me sacrifier parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis un garçon qui est traumatisé. C'est-à-dire que j'ai très, très peur. À Alors d'aujourd'hui, par exemple, je vais voir un papa et une fille en T-Max avec un casque intégral, et je vais avoir peur. Parce que j'ai toujours l'appréhension. Moi, ils sont rentrés chez moi, ça s'est passé en 2021, j'ai eu un homme jacking, j'étais en train de dormir avec mon ex-copine. Ouais. Ils sont rentrés, il était quoi? C'était un dimanche, il était 13h de l'après-midi. Ils sont rentrés à deux calibrés, je me suis réveillé, j'avais un calibre sur la tête. Mmh. Et pourtant, j'habite à Marseille, hein. J'habite pas la campagne. Hein. Mmh. Et,
normal.
Et je reviens sur ce que vous disiez, en fait, tout simplement, c'est que à Marseille, les caméras, elles sont là, mais en fait, c'est comme s'il n'y en avait pas, quoi.
Ah oui. Ouais.
Parce que la moitié, elles sont soit cassées ou soit la qualité, elle est complètement nulle. Donc,
Mais pour revenir sur ce homejacking, vous vous réveillez à 13h, vous avez un pistolet braqué sur la tête.
Au début, moi, je crois que c'était une blague, moi. Au début, j'ai cru que c'était mon ami qui rentrait chez moi. Moi, alors carrément, complètement
déconnecté. C'est une blague un peu... C'est moyen comme blague, mon
gars. Oui, non, mais moi, je pensais ça parce que ça crie. Oh, je me disais, bon, c'est mon ami qui rentre. Je me rendors. Et en fait, quand je me suis retourné, je me suis réveillé. J'avais un calibre sur la tempe, quoi.
Et il cherchait quoi?
Ben, il cherchait... En plus, le pire, c'est qu'il m'appelait par mon prénom. C'est ça, Greg, ne t'inquiète pas, on veut juste ta montre. Voilà, il y avait mon ex à côté qui était sur le ventre. Donc, du coup, moi, au début, j'ai voulu faire le cow-boy, mais en fait, pas du tout, on fait pas le cow-boy, là.
Bah non.
Parce que, du coup, j'ai donné ma montre. Et ça a duré quoi? Ça a duré 4 bonnes minutes, quand même. Hein, mais c'est très long. Hein. Mm. Ils m'ont braqué, ils m'ont fouillé toute la maison, ils m'ont pris de l'espèce et ils sont perchés, au revoir et merci. Hein.
Il se passe quoi pendant ces 4 minutes pour vous?
Ben, moi, j'ai cru que j'allais mourir. Personnellement, je me disais, mais c'est une blague, je suis dans un film, c'est pas possible. Hein. En fait, je suis en train de rêver, je sais pas, mais en fait, pas du tout. C'est bien réel. Et moi, ce que j'ai vécu, pour moi, c'était que dans les reportages que je voyais ça, ou même dans les films, en fait. Moi, je me disais, jamais de ma vie, à moi, ça va m'arriver quelque chose comme ça. Et pourtant, j'avais une caméra, mais ça les a pas empêchés. Mais non, mais surtout que j'avais une caméra qui était devant l'entrée.
D'accord.
Donc, et ça ne les a pas empêchés du tout. Donc, et pourtant, il y avait écrit, comme j'ai vu dans le reportage, comme vous disiez, vous, il y avait écrit « Attention, caméra et compagnie », mais ça ne les a pas empêchés de rentrer chez moi et de venir...
Mais est-ce que vous avez l'impression d'être une proie parce que vous avez plus d'un million de followers sur les réseaux sociaux? Donc, en fait, on vous voit, voilà, là, on voit une chaîne, ça ne doit pas être tout à fait des vrais diamants, mais...
Non, c'est du fake.
Voilà, mais non, mais...
Voilà, les gars, c'est du fake. Voilà, j'ai plus un franc.
Non, mais je veux dire, voilà, vous êtes une cible, c'est-à-dire qu'en fait, vous vivez bien, il y a cette image des réseaux sociaux, genre le yacht, la villa, on a plein d'argent, on a des bijoux, on a de l'alcool, on a tout ça, quoi.
Au début, moi, j'ai la chance, alors d'aujourd'hui, et je remercie vraiment de faire un métier que j'aime, en fait, tout simplement. Et moi, au début, quand j'ai commencé la télé, j'ai commencé, moi, mes aventures en 2019, il n'y avait pas tout cet engouement qu'il y a maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça qui est hallucinant. C'est que moi, je me montrais, je faisais des photos, moi, sur mon feed, avec des montres, avec des tenues, avec des lunettes, avec des choses. Ben, malheureusement, en fait, j'attirais. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte parce que je ne pensais pas que, tout simplement, il allait m'arriver quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, je ne filme plus rien.
Ah oui.
Tout ce que je filme, je le mets en différé. Parce qu'il faut savoir que moi et aussi, ils sont rentrés dans mon salon de coiffure. J'ai un salon de coiffure.
Ouais.
Ils m'ont braqué dans mon salon de coiffure un dimanche soir. Ils sont rentrés vraiment à deux personnes. Ils sont rentrés couteau. Ils m'ont pris mon scooter. Ouais. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup peur. Voilà. Et après, c'est pas moi qui fais les lois. C'est pas moi de parler de ça. Mais moi, je trouve qu'il y a de l'insécurité en France, tout simplement. Comment, à l'heure d'aujourd'hui, je me suis fait agresser il n'y a pas longtemps, je me suis pris un coup de coude, un KO à 3h du matin, je rentrais chez moi, je me baladais avec
on a les images, hein, ouais. Je crois, de cette agression. On va les voir là, juste derrière. Voilà, c'est les images de cette agression. C'était en pleine rue, hein, c'est ça?
C'était en pleine rue, ouais. Je rentrais chez moi.
Waouh, wow, mon Dieu.
Ouais. 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 Ouais.
Incroyable.
C'est ça. Des personnes que je ne connais pas, des personnes que j'ai jamais vu de ma vie, c'est pas mon type de fréquentation. Et on en revient sur l'harcèlement des réseaux sociaux, parce qu'après, les réseaux sociaux, ça parle, ça dit que je devais de l'argent à des gens. Mais c'est pour ça que ça devient tellement grave que moi, lors d'aujourd'hui, j'ai très, très peur. Et je me sens pas en sécurité, vraiment. Et vivre à Dubaï, je suis parti vivre à Dubaï.
Ouais.
J'ai essayé, mais moi, le problème, c'est que j'aime la France, je suis français, et moi, j'ai ma maman. Donc, moi, c'est important de rester près de mes proches et près de mes amis. Je vais pas aller à Dubaï seul comme un fou, et non. Ou même dans un autre pays, non. J'ai pas la foi, j'ai pas la capacité, j'ai pas la force d'être tout seul, en fait. Je suis pas un garçon qui aime être seul.
Et vous avez peur aujourd'hui?
Ah oui, complètement. J'ai très, très peur. Je sors plus comme avant, je sors toujours accompagné maintenant. Maintenant, à chaque fois que je veux sortir ou quoi, je réfléchis. Ma maison, maintenant, c'est devenu pire qu'une prison, c'est-à-dire des caméras de partout. Comme Myriam, hein. J'ai mis une caméra sur la rue. Hein. Voilà. Tout simplement, parce que moi, à un moment donné, moi, ma sécurité, elle est plus importante, excusez-moi, que la loi, je suis désolé. Hein. La loi, OK, d'accord, elle est là, on est là pour la respecter, mais moi, à un moment donné, ma sécurité est très importante. Donc moi, lors d'aujourd'hui, je me protège comme je peux. C'est-à-dire que moi, sur mon téléphone, il y a toutes les caméras, il y a une alarme, c'est-à-dire il y a une mouche qui vole, ça sonne direct. Ah oui. Ah non, mais à un moment donné,
mais en plus, c'est une rare. On ne vit pas comme ça, en fait. On ne peut pas vivre comme ça.
Oui, mais malheureusement, on est obligé de vivre comme ça. Alors on fait quoi? Alors on va me rebraquer ou on va me re-agresser? Non, j'ai pas envie de ça, en fait.
Non, mais vos proches, ils disent quoi, par exemple,
mes proches, il y a toute ma famille branchée sur mes caméras. Il y a toute ma famille qui est branchée sur mes caméras.
C'est-à-dire, en fait...
C'est-à-dire que moi, ma maison, il y a toute ma famille qui est là. C'est-à-dire qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, en 30 secondes, eh ben, il y a quelqu'un qui sera chez moi.
D'accord.
Mais malheureusement, il ne fera rien du tout, hein, parce que c'est la police qui fait les choses. Hein. C'est pas nous.
Est-ce que vous avez été accompagné par quelqu'un? Justement, parce que manifestement, ça a pris quand même le contrôle de votre vie. Parce que vous avez peur, vous êtes parano, vous avez peur de...
Ouais. Oui, bien sûr, ouais, j'ai mon psy qui s'appelle Clément Luc.
D'accord.
D'ailleurs, je le salue.
Et ça marche ?
Ouais, ça marche bien parce que moi, quand je me suis fait homejacker, quand on m'a homejacké chez moi, ils sont rentrés carrément dans ma chambre. Donc moi, pour aller dormir dans ma chambre, j'ai mis, sans mentir, sans faire le Marseillais, j'ai mis 2 mois.
D'accord.
Deux mois parce que je dormais sur le fauteuil. À chaque bruit, en fait, je me réveillais en sursaut. J'avais le cœur qui battait, en fait. Jusqu'à un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentré, après 2 mois que je dormais sur le fauteuil, je suis rentré dans ma chambre, mais je n'étais pas tout seul. Voilà, tout simplement. Parce qu'il fallait que je me réhabitue, parce que j'étais traumatisé. Je ne pouvais plus rentrer dans ma chambre.
Vous n'avez pas déménagé?
Non. Non, je n'ai pas déménagé parce que c'est ma première maison.
Ouais.
Et j'ai beaucoup de choses dans cette maison, en fait. J'ai beaucoup de souvenirs, j'ai vécu, en fait, dans cette maison. Et en fait, je ne vais pas me punir et me sacrifier pour ces gens-là qui essayent de me faire du mal. C'est leur donner raison, en fait, si je déménage. Je leur montre qu'en fait, ils n'ont pas raison. Je me suis sécurisé et je reste chez moi. Voilà. Et le mental et mon psy qui m'a toujours dit, en fait, tout simplement, toujours dans un down, parce que j'étais vraiment, vraiment en down, il y a toujours une porte de sortie. Il faut toujours regarder le côté positif. Et moi, le côté positif, c'est qu'ils ne m'ont pas tué, ils ne m'ont pas...
Oui,
voilà, on essaye de trouver, même si c'est dur, mais on essaye vraiment de se sortir de là en trouvant le côté positif. Et c'est ce que j'ai fait.
Sandra Sisley, vous aussi, hein, vous avez été cambriolée, c'était votre maison de campagne, vous n'étiez pas là, ouais. Mais ça a été un traumatisme. Et je vous voyais boire les paroles en fait, de Greg Yega et chanter que vous sentiez en connexion.
Absolument, en fait c'est un traumatisme parce que tout à coup c'est une violation de votre intimité, c'est la violence du silence. Vous arrivez chez vous et vous sentez que votre maison, le lieu où normalement c'est votre intérieur, le lieu où vous êtes en sécurité, il a été souillé, fouillé. Parce que nous aussi, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas revendre cette maison? Parce que moi, j'ai commencé à développer une espèce d'angoisse et de phobie terrible, puisque ce lieu qui était notre maison de campagne, on a travaillé dur pour s'acheter ça, c'était devenu pour moi terrorisant. Et je n'avais plus de plaisir à venir. Et puis un jour, j'ai essayé de me faire violence. Et je me suis dit, ils m'ont volé tout ce qu'il y avait dedans. Ils ne vont pas me voler non plus ma maison en elle-même. Donc, je suis arrivée grâce à de l'aide. Hein, je me suis fait aider. Et j'ai des images des personnes qui sont rentrées chez moi.
C'est ça, on va les voir, ces images. Ce qui est fou, c'est qu'une fois que vous avez été cambriolée, vous êtes allé voir vos caméras et ils ne se cachent même pas. C'est complètement dingue.
Le mec est à visage découvert en toute détente. Voilà.
Ah ouais,
en détente, il regarde. Comment ?
Il s'est trompé de maison, du coup.
Ah, mais je pense qu'il pense qu'il est chez lui.
Ouais, il pense qu'il est chez lui.
Non, après, la réalité, c'est que juridiquement...
Il fait même coucou à la caméra à un moment. Non, mais c'est dingue.
Salutations et tout.
Bien sûr.
Ça, c'est de l'inédit, ça, par contre.
Ah, mais c'est pour ça que j'en ai parlé. Mais ça m'a glacé le sang. Je voulais revenir sur votre initiative municipale de voisins. Je trouve ça formidable, en fait, de responsabiliser chacun, chacune, parce que le vivre ensemble, c'est quand même la base. Après, bon, quand on a une maison isolée comme nous, on vit avec les canards, mais on a quand même quelques voisins. Mais je trouve ça formidable et ça rassure, parce que le lien, c'est ce qui nous permet de calmer nos névroses et ces traumatismes, puisque ça se passe chez nous, là où on dort.
Paola, on sent quand même beaucoup de traumatisme derrière ces cambriolages. Comment on fait quand une maison a été cambriolée pour reprendre le dessus, pour réussir, comme Greg justement, à
à revenir dans sa chambre, à mettre la clé dans la serrure sans avoir peur. Comment on fait pour réinvestir les lieux, finalement ?
Alors, on va s'attaquer à plusieurs domaines. D'abord, il y a la sécurité du lieu lui-même, parce que ça s'appelle un chez-soi, et on n'est plus trop chez-soi s'il y a eu d'autres gens qui sont rentrés sans notre accord. Donc déjà, il y a une question sécuritaire. Alors, il y en a qui vont installer des alarmes, d'autres des caméras, etc. Et puis, il y a aussi effectivement la possibilité d'apprendre un sport de défense ou de combat, mais qui va permettre pas seulement de donner l'illusion, mais de reprendre un peu à la fois confiance en soi et une autre idée de la façon dont on peut appréhender cette violence. Mmh. Et ensuite, il y a aussi l'aspect psychologique. Donc, avec des thérapies, on va travailler sur le traumatisme. Il va y avoir plein de façons de travailler dessus. Mais effectivement, il faut reprendre confiance en soi, essayer surtout... Mmh. de diminuer, voire complètement changer la peur et aussi la honte et la culpabilité, parce que c'est souvent aussi chargé de culpabilité, de pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai fait ça comme ça, pourquoi c'est arrivé de cette manière.
Ça prend combien de temps ?
C'est en fonction vraiment de chacun et de sa capacité à rebondir. Effectivement, plus on va avoir de traumatismes, comme vous disiez tout à l'heure, vous en avez eu quand même au moins 5, et plus ça va être difficile parce qu'à ce moment-là, il y a aussi la notion de « on m'a recherché, c'était ouais. pour moi ». Ce n'était pas le fruit du hasard, comme a eu par exemple Majda, où c'était une fois à Paris, puis une fois en dehors. Donc voilà, c'était, là, il y avait vraiment une recherche, il y a eu... Ouais, vous vouliez dire un truc.
Oui, alors quand je me suis fait le homejacking, oui, ça, il n'y a pas de souci. Là, il y a eu une recherche. Mais quand je me suis fait braquer au salon de coiffure, et en fait, parce que la police les ont retrouvés, et en fait, quand le mec il est venu, en fait, parce que moi je suis un garçon qui est très observateur, j'ai vu ses yeux qu'il a été étonné. Et en fait, quand ils l'ont attrapé, ils ont fouillé son téléphone. Et en fait, quand il m'a braqué, il est allé voir après si c'était bien moi ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Oui.
Donc, dans le sens, l'homejacking, oui, bien sûr, ça c'est sûr, il savait que c'était moi parce qu'il m'appelait par mon prénom, etc. Oui. Mais le salon de coiffure, non. Mais après, malheureusement, il faut se méfier maintenant. Donc, moi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me méfie de mon entourage. Hein. Voilà, il faut calculer.
Ah ouais, donc c'est quand même très dur.
C'est une étape supplémentaire. Voilà. C'est-à-dire, l'entourage est carrément devenu une source, peut-être, de stress et d'angoisse.
Complètement.
On peut vous souhaiter quoi, Greg, pour la suite? D'essayer de redevenir léger.
Bon courage. Non, non pour la suite, écoutez, moi, je suis un garçon qui avance de base. Donc, ouais. je suis un fonceur. Du coup, on avance, même si je sais que c'est des épreuves de ma vie qui vont rester gravées. Ça, c'est des choses que je ne pourrai jamais oublier. Mais voilà, je pense à autre chose. Je fais beaucoup de sport qui me font beaucoup de bien. Et surtout, voilà, je travaille beaucoup. Je me concentre à ma passion qui est la musique et j'essaie d'avancer.
Et justement, vous sortez un nouveau single, c'est ça ?
Oui, c'est ça, en fait, il est sorti, qui s'appelle Boussa, voilà, vous le voyez là, donc, voilà, voilà.
Bravo.
Merci beaucoup.
Bravo, et surtout, merci d'être venu vous confier, comme ça, sur des choses de votre vie qu'on ne connaît pas forcément, c'est-à-dire qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux, le garçon souriant et tout, mais il y a d'autres choses chez vous, donc merci d'être venu vous confier.
Merci à vous, du coup, Estelle.
Et il est temps maintenant de passer à notre dernière rubrique, le « Que sont-ils devenus ?». Et aujourd'hui, on va aller prendre des nouvelles d'une ancienne invitée. Elle s'appelle Bernadette. Elle était venue sur le plateau de Jean-Luc Delarue il y a maintenant 24 ans. Restez avec nous, elle sera de retour juste après cette courte pause. On est de retour sur RMC Life. Merci d'être avec nous pour Ça se discute. Et tout de suite, place à notre rubrique « Que sont-ils devenus ?». Ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Bernadette. Son passage sur ce plateau remonte à 2001. Le thème ce soir-là, peut-on dépasser ses blessures d'enfance ? On regarde un extrait du passage de Bernadette et on se retrouve juste après.
En 2001, Bernadette avait tenu à nous parler de ses blessures d'enfance. Elle avait grandi dans un milieu modeste.
À l'intérieur de la maison, les vitres étaient gelées, donc on se couvrait beaucoup. Et on mettait le soir des briques, des grosses briques dans le four. Après, ma mère, elle les entourait quand elles étaient bien chaudes dans des serviettes éponges et on mettait ça au bout du lit et on se mettait les pieds gelés dessus. Pourtant, on avait froid, mais j'adorais ça, ouais. Ça m'arrivait, à mes copines aussi, de ramasser des chewing-gums dans la rue, de les mettre dans l'eau le soir avec un petit peu de sucre.
pour les laver, on faisait semblant de les laver, puis on les mâchait le lendemain.
C'est vrai que comparé à elle, j'ai une enfance merveilleuse.
Ça doit être agréable d'entendre ses enfants dire j'ai une enfance merveilleuse pour la maman.
Ouais, en plus, c'est même pas vrai.
C'est même pas vrai, c'est elle qui le dit.
C'est elle qui le dit, mais
elle
c'est
pas été forcée,
c'est parce qu'elle n'a pas de recul encore. Ouais.
En effet, même si Bernadette s'est forcée au quotidien de ne pas faire revivre la même enfance à sa fille, le destin l'avait malheureusement rattrapée.
Aujourd'hui, j'ai 3 enfants et je suis une mère abusive. Je m'éloigne jamais d'eux plus d'une soirée. Si je pars une soirée, je vais aller vérifier en rentrant le soir, alors que j'ai encore un verre dans le nez, je vais aller voir si, s'ils ont mangé ce que je leur avais préparé. S'ils n'ont pas mangé, quelquefois, je vais même les réveiller. Je leur dis, mais pourquoi t'as pas mangé?
Elle ne reproduit pas, le schéma, comme vous pouvez voir. Ouais. Vous les couvrez,
c'était pas bon. Vous leur faites des cadeaux. Il y avait tout ce qu'il faut, des cadeaux. Ah, oui, j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore beaucoup. C'est une manière de compenser.
Une succession de malheurs depuis l'enfance et une résilience qui interrogeait Jean-Luc Delarue.
Vous avez quand même souffert de certains manques très clairs.
Oui,
si vous avez perdu votre mari très jeune. Enfin, je veux dire, c'est quand même des malheurs assez lourds.
Et ma mère s'est suicidée un an avant la mort de mon mari.
Comment vous avez transformé cette énergie difficile en énergie aussi positive?
Parce que je ne veux pas lâcher. Je ne lâcherai pas prise. Et je n'ai pas la vie que je voudrais avoir. Professionnellement, je me suis trompée. Avec mes gamins, ce n'est pas toujours ça. Je veux dire, je n'ai pas la vie dont j'avais rêvé petite. Je voulais être actrice. Ah. Je ne serai jamais. Le peu que j'ai réussi à avoir, le peu que j'arrive à bâtir au quotidien, eh ben, c'est ça. Et je continuerai jusqu'au bout, je me battrai.
Bonsoir Bernadette.
Oula. C'est un peu émouvant.
Oui, ben, je vois ça.
C'est un peu émouvant, mais bon, bonne nouvelle. Je suis toujours là, chère Estelle.
Vous êtes là et bien là. Mais pourquoi vous êtes aussi émue de revoir ces images?
Parce que, j'ai pas changé. J'ai toujours la même énergie, j'ai toujours la même envie de me battre. Et je vois que, finalement, ça s'est bien passé. J'ai quelques rides en plus, mais finalement...
À peine.
Ça va quand même. Alors, par contre, ce que j'ai fait, c'est que ces blessures d'enfance, je les ai relativisées. Ouais. Je les ai plutôt désenrobées d'amertume et de tristesse. Je les ai enrobés de tendresse maintenant. Et donc, chaque fois que je raconte quelque chose de mon enfance à mes enfants ou dans des conversations, eh ben, je fais en sorte qu'elles soient gaies, que ces souvenirs soient gaies et tendres et pas tristes et plombent l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps.
Est-ce que l'émission a changé quelque chose pour vous, votre passage?
Oui, ça a changé quelque chose. Ce qui a changé, c'est que ça m'a peut-être fait un petit électrochoc et je me suis dit, bon, allez, ma vieille, tu vas passer à autre chose quand même. Hein? Il y a des choses, puis on relativise, on s'informe, on a la vision de gens qui ont des vies vraiment, vraiment, vraiment difficiles, puis on se dit finalement, c'était chouette quand même.
Est-ce qu'on peut dire, Bernadette, que ça y est, vous avez surmonté justement vos blessures d'enfance?
Ah oui. Complètement. Oui, 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 oui. Ce sont vraiment, vraiment de bons souvenirs maintenant. Et je n'ai plus du tout, je me sens plus du tout gangrénée par ma jeunesse.
Merci beaucoup, Bernadette, d'être
Merci
venue sur ce plateau de Ça se discute 24 ans plus tard. Sandra Sisley, notre grand témoin, je vais vous demander de venir me rejoindre parce que c'est vous, Sandra, qui allez conclure cette émission. Alors, Sandra, vous portez quel regard sur tout ce qu'on vient de voir et tout ce qu'on vient d'entendre?
Ah, je suis très touchée et très concernée par tous vos témoignages. On est tous égaux face en fait à cette insécurité. On voit bien que même si on met 550 caméras, il peut y avoir à un moment donné, vous croisez quelqu'un qui est violent. Et voilà, ce qu'il faut, je pense... c'est garder le goût de vivre et pas simplement le goût de contrôler ou d'essayer d'être en ultra-sécurité parce qu'on n'y arrivera jamais, à moins d'être dans Big Brother avec de l'ultra-surveillance ou dans le Truman Show, mais on n'a pas envie de ça. Donc c'est une histoire de niveau, essayer dans la mesure du possible de réguler nos névroses, de se soigner et puis rester vigilant un maximum.
Merci beaucoup, Sandra Sisley. Vous avez été un super grand témoin.
Écoutez, je suis très fière. Merci.
Très réactive, passionnée. Et je vais rappeler, bien sûr, votre actualité. Hein. Sandra, responsable des relations publiques de la comédie musicale La Légende de Monte Cristo, ça jouera au Dôme de Paris.
En janvier.
À partir du 28 janvier. Et puis, ça partira 2020. En tournée. Ce sera un grand succès dans toute la France. Et puis, je rappelle que vous êtes également chroniqueuse de télévision sur Mesdames, Média. Merci beaucoup, Sandra Cissé, d'avoir été notre grand témoin. Merci, Bernadette. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Ça se discute, revient très vite sur RMC Live. Bonne soirée à tous et à très vite. J'espère que ce podcast Ça se discute vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et retrouvez Ça se discute sur RMC BFM Play et sur les réseaux sociaux.